Et je laisse tout de suite donc la parole à Philippe Berthier. Merci.
Merci ma chère collègue, bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous rencontrer. Vous êtes pour moi un public inhabituel parce que je suis un littéraire, j'oserais presque dire un archi-littéraire, et je ne suis pas habitué à prendre la parole devant un public de jeunes gens qui font des maths et de la physique à haute dose du matin jusqu'au soir. Mais ce n'est pas la première fois que j'ai le plaisir de m'adresser à un tel public, et à chaque fois j'ai été impressionné en constatant à quel point les scientifiques peuvent aussi s'intéresser à la littérature et d'une manière vraiment personnelle et quelquefois même passionnée, ainsi qu'en témoignent les questions qui me sont posées à la fin de mes interventions. Donc ne croyez pas que pour moi c'est une corvée de vous rencontrer ou de l'ordre du devoir imposé, mais c'est vraiment un plaisir, et je souhaite surtout vous être un peu utile dans la perspective de votre épreuve écrite au concours. Donc, en vous proposant quelques idées que vous partagerez ou non, on pourra en discuter après, sur l'amour et la politique dans le roman de Stendhal, La Chartreuse de Parme. Et j'aimerais partir peut-être d'une distinction qui a été établie par Charles Péguy, que vous connaissez en tant que poète, bien sûr, qui est la suivante. Il dit, dans l'histoire des hommes, il y a deux sortes de moments très différents, même tout à fait opposé. Il y a ce qu'il appelle des périodes et des époques. Alors, c'est une distinction qui est très opératoire et très efficace pour envisager la Chartreuse de Parme. Qu'est-ce que c'est, selon Péguy, qu'une période ? Ben, je dirais, pour le mieux l'expliquer, c'est un moment comme celui qu'on est en train de vivre en France, qu'on traverse. C'est-à-dire, c'est des moments où on patauge, plus ou moins, où on n'avance pas, où l'histoire semble en panne. Peut-être on manque de vision, on n'est pas projeté de façon dynamique vers l'avenir. C'est plutôt la gestion au jour le jour, vaille que vaille, et dans un sentiment de médiocrité. Je ne sais pas si c'est l'impression que vous fait l'histoire actuelle de France, mais enfin, moi, c'est celle qu'elle me fait. Et Péguy oppose à ces périodes médiocres ce qu'il appelle les époques. Alors, sans jeu de mots, les époques sont épiques, c'est-à-dire c'est des moments où, au contraire, on a l'impression qu'il y a de l'enthousiasme dans l'histoire, qu'elle avance glorieusement, qu'elle se dirige avec énergie vers des lendemains prometteur, et on pourrait dire que le début de la Chartreuse de Parme, hein, ce début absolument inoubliable, dont beaucoup pensent que c'est peut-être le plus beau début de roman de toute la littérature française, ça serait typiquement une évocation d'une époque particulièrement faste et riche de l'histoire, non seulement de France, mais de l'histoire de l'Europe, à une époque où l'Europe s'était le monde. Eh bien, c'est évidemment l'évocation de l'arrivée de la toute jeune armée française, entraînée par son général qui a juste quelques années de plus que la plupart de ses soldats, Bonaparte, qui traverse les Alpes et qui déboule dans les plaines lombardes pour bousculer et désintégrer toutes les vieilleries monarchiques autrichiennes, toutes les formes de l'oppression qui chloroformait, qui endormait ou qui terrorisait l'Italie du Nord. Donc c'est un moment évidemment absolument unique même dans l'histoire moderne, et la première phrase du roman, je vous la rappelle, le 15 mai 1796, le général Bonaparte fit son entrée dans Milan à la tête de cette jeune armée qui venait de passer le pont de Lodi et d'apprendre qu'après tant de siècles, César et Alexandre avaient un successeur. Vous voyez, la Trinité, César, Alexandre, Bonaparte. Donc les heures les plus hautes, les plus extraordinaires de l'histoire humaine. C'est vraiment tout de suite, on est déjà dans la légende et presque déjà dans le mythe. De quoi s'agit-il en effet ? Eh bien, il s'agit de montrer, d'illustrer comment l'idéal de l'émancipateur, libérateur de la Révolution française, toute récente, nous sommes en 1796, donc quelques années après la Révolution, eh bien cet idéal traverse les montagnes et se répand contagieusement comme une sorte d'épidémie de la liberté. C'est pas une maladie qu'on apporte à l'étranger, mais au contraire, on lui apporte un nouvel évangile l'Évangile, la bonne nouvelle de la liberté, de l'égalité et de la fraternité, le nouvel idéal de la... un idéal de régénération, une sorte de printemps des peuples qui, dont les premiers bénéficiaires vont être les Lombards, les Italiens, les Milanais. Vous savez que fondamentalement, la Révolution française se propose d'être universelle. Elle ne se réduit pas à l'intérieur de des frontières nationales, mais elle a vocation d'être répandue à travers le monde. C'est un nouvel évangile, exactement, une nouvelle religion, une religion citoyenne, hein, magnifique, qui doit être apportée aux peuples qui ne la connaissent pas encore. Bon. Alors, c'est ce moment que Stendhal choisit pour attaquer triomphalement son roman. Vous savez peut-être que Balzac, son collègue et ami, a consacré à la Chartreuse de Parme un article absolument phénoménal. D'ailleurs, on ne peut même pas l'appeler un article, c'est un véritable essai. Ça fait 70 ou 80 pages où il dit que c'est un des plus beaux romans du 19e siècle, un chef-d'œuvre, etc. Mais il lui propose quand même, il avance quand même un certain nombre de critiques, dont celle-ci dit : vous commencez. Quel est le sujet de votre roman ? Si le sujet de votre roman, c'est l'histoire du protagoniste Fabrice Del Dongo, vous commencez les choses trop en amont. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de raconter toute cette histoire de l'arrivée de l'armée d'occupation française en Lombardie ? Vous prenez les choses de trop loin, de trop haut. C'est une sorte de hors-d'œuvre et il faudrait arriver plus vite au véritable sujet qui est l'histoire de ce jeune homme qui s'appelle Fabrice Del Dongo. Alors, Stendhal, avec tout le respect et l'estime qu'il avait pour son confrère Balzac, a pris en considération cette objection, mais a fini par n'en pas tenir compte. Il n'a rien changé. Il avait deux raisons à cela. La première raison, c'était une raison tout à fait personnelle. C'est que lui-même a connu la même expérience, non pas en 1796, il avait 13 ans, il est né en 1783, mais 4 ans plus tard, en 1800, il n'en avait que 17, lorsqu'il a quitté Paris pour suivre justement l'armée de Bonaparte, qui pour la deuxième fois franchissait les Alpes et recommençait, n'est-ce pas, ce qui avait été une première fois tenté 4 ans plus tôt. Vous imaginez ce que c'est pour un jeune provincial monté de Grenoble, hein, monté de son trou grenoblois, et qui, à 17 ans, avec toute l'enthousiasme juvénile de ses 17 ans, se trouve mêlé à une aventure dont il a immédiatement le sentiment qu'elle est en train de faire l'histoire. L'histoire avec un grand H ou avec sa grande H, comme dit Georges Perec, hein, il y aura un avant, un après ces événements qui déjà paraissent à ceux-mêmes qui les vivent fabuleux. Donc, c'est quelque chose d'autobiographique pour lui, c'est quelque chose qui touche à une expérience fondatrice inoubliable, littéralement, et on imagine quel crève-cœur ça aurait été pour lui que de renoncer à ce début qui paraît en effet prendre les choses d'un peu haut, d'un peu loin, mais qui le touche personnellement, c'est ses souvenirs, les plus beaux souvenirs de sa jeunesse. Bon. Deuxième raison pour laquelle il a gardé ce début, c'est parce que, évidemment, Stendhal montre que cette invasion, parce que c'est bien ça, c'est un pays voisin qui envahit le pays d'à côté. Donc les Français sont des occupants. Quand on parle d'occupation, nous, les Français, évidemment, ce mot a de fâcheuses résonances. On pense à l'occupation allemande pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est pas des souvenirs heureux, c'est le moins qu'on puisse dire. L'occupation est vécue comme un traumatisme, une aliénation, quelque chose dont il faut se débarrasser dès qu'on le peut. Or, le tableau idyllique que Stendhal nous présente de cette occupation est tout à fait le contraire. On a l'impression que les Italiens, non seulement ne sont pas contrariés d'être occupés, d'être envahis par les Français, mais qu'ils n'attendaient que ça, qu'ils n'espéraient que ça, et que leur arrivée coïncide avec un véritable âge d'or. Hein, c'est une sorte d'Arcadie, tout le monde est heureux. Les Français apportent non seulement la liberté, mais ils apportent aussi le bonheur, et ils apportent l'amour. Stendhal nous montre dans les villages occupés, occuper les jeunes soldats français avec les jeunes italiennes, berçant des enfants sur la porte des fermes. Et on comprend très vite que ces enfants, ce sont leurs propres enfants. Il y a eu toutes sortes d'amour, évidemment, franco-italienne. Et on s'imagine que cette occupation n'est pas du tout synonyme d'oppression, mais tout au contraire d'exaltation amoureuse. Donc, si vous voulez, ce début est à la fois et d'une manière organiquement liée, à la fois politique et érotique. Hein. C'est triomphal, mais c'est aussi triomphalique. C'est-à-dire que ces jeunes gens qui sont gorgés de sève, hein, les soldats de Bonaparte ont 18 ans, 20 ans. Hein. Ils sont évidemment débordants d'énergie amoureuse qui ne demandent qu'à se répandre et à de la manière la plus généreuse, et les bénéficiaires en sont les jeunes italiennes qui évidemment sont parmées de reconnaissance et d'amour pour leur beau vainqueur. Alors, si je vous raconte tout ça, c'est parce que Fabrice Del Dongo est le produit direct de cette occupation, puisque c'est quelque chose qui n'est pas dit dans le roman de manière explicite, mais Stendhal quand même sème des indices suffisamment clairs pour que le lecteur un petit peu perspicace le devine sans discussion. Fabrice Del Dongo n'est pas le fils du marquis Del Dongo. Il l'est pour l'état civil, mais son véritable père, le père biologique du héros de la Chartreuse de Parme, c'est un jeune officier français qui s'appelle le lieutenant Robert et qui avait été logé pendant son temps d'occupation dans le palais de la famille Del Dongo. Et une relation secrète, clandestine forcément, adultère, a lié ce jeune officier français avec la marquise Del Dongo, et Fabrice est le produit de ses amours cachés. Donc c'est un métis franco-italien. Et ça aussi, c'est riche de projections autobiographiques, car Henri Bell, dit Stendhal en littérature, n'a cessé de rêver lui aussi d'être d'une manière ou d'une autre italien. Il ne l'était pas, vous savez que l'Italie était devenue sa patrie d'adoption, il a passé presque toute sa vie en Italie, même professionnellement, puisqu'après 1830, il y a travaillé, il avait un poste diplomatique, il était consul dans une ville italienne. Et il a toujours rêvé d'avoir une généalogie du côté de sa mère, justement, qui était italienne. Il imaginait que sa mère, qui s'appelait Gagnon, sauf c'était en fait une Gagnoni, des gens qui seraient venus de Sienne au moment où les papes se sont installés à Avignon. Et il a besoin de rêver, il aime tellement l'Italie, il valorise tellement ce qui, d'une manière ou d'une autre, est italien, qu'il a besoin de s'inventer une généalogie italienne, en partie par le côté maternel. Donc on voit, si vous voulez, à quel point il se projette sur ce protagoniste fictionnel, romanesque, dont c'est exactement l'héritage génétique. Pour lui, c'est un mélange idéal de tout ce que la France a de meilleur, c'est-à-dire un certain esprit, un certain panache, une certaine bravoure, une certaine manière joyeuse et dynamique d'être au monde, avec ce que l'Italie a de meilleur, c'est-à-dire la capacité extraordinaire et unique en Europe de vivre et de pratiquer l'amour. L'amour est inconnu en France, selon Stendhal. La grande passion nationale de la France, c'est la vanité, parce que le français est toujours très inquiet du jugement qu'on va porter sur lui, sur ses actes, sur sa personne. Il sent toujours le regard d'autrui posé sur lui et il n'ose pas être lui-même. Tandis qu'au contraire, l'Italien ne connaît qu'un désir, c'est celui d'assouvir justement ce qu'on appellerait aujourd'hui ses pulsions. Quand un Italien désire, il faut que ce désir soit satisfait immédiatement. Il ne s'occupe absolument pas du jugement des autres, encore moins de la police, et pour la bonne raison qu'en Italie, il y a l'État et la police n'existent pas. Donc, c'est pourquoi l'Italie est fondamentalement le pays de l'amour. Et c'est pourquoi La Chartreuse de Parme, qui est un roman italianissime, peut-être le roman le plus italien de notre littérature française, évidemment, ne peut être qu'un roman sur l'amour, car qu'est-ce qu'on fait en Italie ? L'amour. Il n'y a que ça qui intéresse les Italiens d'une manière ou d'une autre. Vous voyez comment la politique et l'amour, dès le début, dès la donnée même du roman, la donnée initiale du roman, sont mêlés, entrelacés et ne peuvent absolument pas être séparés. Donc, on a ce début magnifique, lumineux, vraiment superbement entraînant, qui nous donne l'impression, qui va se révéler malheureusement très vite illusoire, qu'il y a une nouvelle naissance possible des peuples dans la liberté et dans l'amour. Malheureusement, deuxième étape, 1815, défaite de celui qui est devenu entre-temps l'empereur Napoléon, à Waterloo. Et là, c'est la fin, c'est vraiment la négation, la rature complète de ce début splendide. Waterloo, on pourrait dire, c'est l'extinction des feux. La défaite de Napoléon est une défaite politique parce qu'elle signe le retour de ce qu'on va appeler la restauration, qui dit bien son nom, un mot qui est tout un programme qui dit bien ce qu'il veut dire, c'est-à-dire que tout ce qui avait été d'ancien régime avant la Révolution va revenir en force, pratiquement comme si rien ne s'était passé. En venant reprendre son trône en 1815, à Paris, le roi Louis XVIII dit qu'il veut fermer l'abîme des révolutions. La révolution ne serait plus qu'une espèce de parenthèse folle, de bouffée délirante, qu'il faut oublier au plus vite, et puis on recommence comme avant à Versailles en 1780, comme si rien ne s'était passé. Donc voilà ce que signe politiquement la défaite de Napoléon. Et tout ça va être organisé par un homme, un diplomate de génie, Metternich, qui va organiser l'Europe dans ce qu'on va appeler la Sainte Alliance, hein, l'alliance de tous les régimes monarchiques restaurés pour empêcher à tout jamais le retour des poisons et des démons révolutionnaires. Bon, donc Waterloo démolit l'entrée de Bonaparte à Milan 20 ans avant. C'est la fin de l'épopée, c'est la fin, même certains le croient, de l'histoire, et il y a une démobilisation générale. Dans quoi pourrait-on s'engager? Quel serait l'idéal qu'on pourrait proposer à un jeune homme généreux qui a l'âme bien placée, hein, quand on dit un jeune homme, un garçon de 17 ans, allez, tu viens, on va aller libérer l'Italie. Bon, bah, écoutez, on s'en va. Bon, on laisse tout et on part naturellement. Mais maintenant, qu'est-ce qui pourrait bien séduire un jeune homme dans l'idée qu'il de se mettre au service d'un régime perclus, de vieux, dont le seul programme est de remettre en place le monde fossile qu'on croyait avoir définitivement éliminé. Donc, ce retour de toutes les vieilleries signifie que sur toute l'Europe se met à peser, tombe le couvercle vraiment des régimes réactionnaires. Hein. Le terme réactionnaire dit bien ce qu'il veut dire. On fait réaction contre ce qui a précédé. Alors, puisqu'il n'y a plus d'histoire, puisqu'on ne voit plus du tout une cause dans laquelle on pourrait s'engager, il ne reste plus qu'à se replier sur ces enjeux privatifs, sur ces enjeux privés. Puisque l'histoire avec un grand H est en panne, en congé, eh bien, il reste les petites histoires de cœur, les petites histoires sentimentales, les amourettes et les amours. Alors, dans ce contexte, comment nous apparaît le héros de la Chartreuse de Parme dans cette espèce d'éviction de la grande dimension historique, comment nous apparaît Fabrice? Alors, dans son article sur la Chartreuse, Balzac dit « Fabrice, c'est l'Italien absolu, c'est l'Italien presque caricatural, indépassable, il est l'Italien à 100%, à 1000%, qui pousse au bout toutes les qualités et tous les défauts qu'on prête au caractère, au tempérament italien. » Alors, certains critiques ont dit « Fabrice, c'est le principe amour, il n'est qu'amour, il n'est, semble-t-il, venu au monde que pour l'amour, c'est d'ailleurs un enfant de l'amour, nous l'avons vu tout à l'heure, c'est pas le fruit d'un triste devoir conjugal, hein, puisqu'il est le produit d'un amour passionné et transgressif, puisque la marquise del Dongo a fait l'amour avec l'occupant, n'est-ce pas, à l'insu évidemment de son époux légitime. Donc c'est un fruit de l'amour lui-même, et il semble qu'il a en lui une vocation vocation à l'amour qui épuise tout son destin et tout son personnage. On l'a comparé à beaucoup, par exemple, au personnage de Chérubin. Hein, Chérubin dans Le mariage de Figaro de Beaumarchais et l'opéra que Mozart en a tiré, Les noces de Figaro. Vous savez, vous connaissez peut-être cet air très célèbre qu'on chante dans l'opéra. Chérubin est un jeune garçon, un ado, nous dirions aujourd'hui. Hein, il a 15 ans. Et il dit, je ne sais pas ce que j'ai, je ne sais pas ce que je ressens, je suis tout drôle, je suis tout bouleversé, je ne me reconnais pas, je ne sais pas ce que je veux, j'ai envie, mais je ne sais pas de quoi, je désire, mais je ne sais pas qui, je suis troublé dès qu'une femme passe à proximité. Enfin, c'est d'une façon délicieuse, évidemment, l'analyse de tous les tourments hein, d'un jeune cœur qui se cherche, qui ne sait pas encore identifier exactement ses désirs dans le trouble délicieux et torturant hein, des désirs adolescents. Donc ça serait Fabrice, qui est un papillon hein, qui butine partout où il passe. Il suffit que Fabrice arrive quelque part pour que toutes les représentantes du sexe féminin tombent en pamoison. Rien qu'à le voir, il est le charme incarné. Nul ne lui résiste, il traîne tous les cœurs après lui. C'est véritablement... Bon, cela dit, c'est évidemment merveilleux et on l'envie, on voudrait bien être comme lui ou avoir été comme lui. Mais en même temps, tout ça reste extrêmement superficiel. C'est-à-dire qu'il s'agit vraiment de la jouissance de l'instant, il ne s'agit pas de grands sentiments, il ne s'agit pas de passions dévorantes, mais plutôt de libertinage sympathique, de passe-temps heureux, et non pas d'un investissement existentiel, enfin profond de toute la vie, autour d'un objet qu'on privilégie comme absolument indispensable. Donc, ce qui est frappant, c'est que dans ces badinages, dans ce vagabondage plus érotique qu'amoureux, le jeune Fabrice mène une vie qui est complètement hors de toute dimension politique. Hein. Lui qui est allé à Waterloo, qui, emporté par l'enthousiasme, a ressenti le besoin d'aller aider Napoléon, avec évidemment la merveilleuse naïveté de la jeunesse. Il dit « L'empereur a besoin de moi hein, ». Il a 17 ans. Bon, il a besoin de moi, il va livrer la bataille décisive, je vais aller lui donner un coup de main pour l'aider à gagner. Bon, tout ça, évidemment, complètement illusoire, puisque vous savez que quand il sera sur le champ de bataille, il ne comprendra absolument rien. Il verra se dérouler des manœuvres qui lui restent opaques, et ce sera une expérience complètement nulle et décevante. Bon, mais il avait quand même, là, il était vraiment mu par un grand engagement politique. Bon, puisque maintenant il n'y a plus rien qui mérite qu'on s'engage pour le défendre, pour le servir, donc il n'y a plus que cette guirlande de maîtresses charmantes et aussitôt remplacées déroule le long de son chemin, en ayant, dirait-on, complètement gommé et oublié toute dimension de réflexion et d'authenticité politique. Alors, nous arrivons à Parme, et Parme, alors évidemment, va donner à Stendhal l'occasion d'une analyse au scanner, on dirait aujourd'hui, du fonctionnement en modèle réduit. Hein, Parme, c'est minuscule. Hein. La principauté de Parme, c'est le Liechtenstein, hein, à peu près. C'est l'Andorre, enfin, bon, c'est trois fois rien. C'est un micro, c'est Monaco. C'est un micro-État, hein, mais une sorte de maquette qui permet en modèle réduit hein, d'analyser tous les ressorts du fonctionnement d'un régime réactionnaire et despotique tel qu'ils ont été réinstallés par la défaite de Napoléon. Alors, on va voir au quotidien comment ça fonctionne, une restauration dans ce petit État parmesan. Alors, il y a un côté, évidemment, peut-être, alors allons du moins important au plus important, selon toutes les règles de la dissertation. Le moins important, mais c'est peut-être ce à quoi on est sensible d'abord, c'est le côté bouffon. le côté comique. Il y a un côté comique, indubitablement, dans la vie politique à Parme, si on peut l'appeler vie politique, parce que c'est une vie pseudo-politique, naturellement, où la politique est misérable et complètement pourrie et faussée. Nous allons voir comment. Vous savez que le prince de Parme, les Ranus Ernest père et fils, surtout le père, se prennent pour Louis XIV, ce qui est tout à fait logique, puisque si l'on veut restaurer la monarchie dans toute sa puissance et dans toute sa splendeur, le modèle absolu, ça ne peut être que le grand roi. L'époque où Louis XIV, évidemment, était un modèle indépassable du pouvoir monarchique pour le monde entier. Donc, ce qui est obsédant pour, dans la cervelle des prince de Parme, c'est Versailles, qui évidemment résume l'apogée du modèle monarchique tel qu'il a été incarné de manière unique et indépassable par le roi Soleil. Donc il a derrière son fauteuil un portrait de Louis XIV, et quand il reçoit des visiteurs dans son cabinet au palais de Parme, il prend une position des airs majestueux, il a un certain port de tête où il imite grotesquement évidemment le portrait en pied de Louis XIV qu'il a derrière lui. On imagine que c'est un portrait de Rigaud, vous savez, le célèbre portrait par Rigaud de Louis XIV, appuyé sur son bâton, dans le costume du sacre, enfin, une icône absolument sublime du roi absolu. Et donc, c'est voire grotesque de voir ce principicule qui n'est rien se prendre pour ce qu'il n'est pas et tenter pitoyablement de l'imiter. Bon, donc ça c'est un des aspects les plus burlesques et ridicules. Il y a aussi dans le personnel politique de Parme des personnages qui sont carrément des guignols, des ganaches, des bouffons. Je pense évidemment au fiscal Rassi, à qui il arrive que le prince lui donne des coups de pied au cul. C'est pas parce que c'est une sorte de marionnette complètement, qui fait toutes les basses besognes et qui est absolument corrompu et qui est une sorte de marionnette absolument, qui n'est qu'une silhouette burlesque sans aucune épaisseur ni vérité. Bon. Alors Paul Valéry, en parlant de la Chartreuse de Parme, a dit Parme, c'est une opérette, c'est une principauté d'opérette. Alors je trouve que ce jour-là, Paul Valéry n'a pas été très bien inspiré, si j'ose le dire, parce que l'opérette, vous le savez, c'est un genre léger. C'est un genre, c'est une œuvre musicale joyeuse, gaie, amusante, c'est du champagne, bon, c'est quelque chose qui ne porte pas à conséquence, il n'y a pas d'enjeu grave dans une opérette, il y a toujours un happy end, bon, il peut y avoir des difficultés, mais tout ça finit par s'arranger, et tout ça en chanson, c'est évidemment de l'ordre du divertissement, et pas du tout de la tragédie. Bon, alors, je ne veux pas noircir non plus, tomber dans l'excès inverse et noircir la Parme de la Chartreuse, mais il faut quand même bien voir que l'élément qu'on respire dans ce microcosme parmesan, à tous les étages et dans tous les milieux, c'est la peur. Tout le monde a peur. C'est un régime vraiment qui fonctionne par et sur la peur. Bon, de quoi a-t-on peur ? Eh bien, les sujets ont peur. Ils ont peur parce que la police secrète est partout. On est fliqué du matin au soir. On est surveillé. Il n'y a pas de caméra de surveillance, mais c'est comme s'il y en avait. C'est-à-dire que tout le monde est repéré. Si quelqu'un pense mal, c'est-à-dire s'écarte de la version officielle que le pouvoir veut imposer, il est immédiatement fiché. Égard à lui, s'il se manifeste de manière trop évidente, il est immédiatement incarcéré dans la sinistre tour Farnèse. Alors, si vous allez à Parme, vous ne trouverez pas la tour Farnèse, et pour cause, c'est une invention de Stendhal, elle n'a jamais existé dans la Parme réelle, mais elle a existé quand même parce que tous les lecteurs de Stendhal en 1839, au moment de la publication du roman, on saisit l'allusion. La tour réelle existait dans ce qui est maintenant la Slovaquie, je crois, c'est-à-dire du côté de Bratislava. Ça s'appelait le Spielberg et c'était une forteresse absolument féroce, d'où il était absolument impossible de s'évader, où on coffrait pendant des années, des dizaines d'années, dans des culs de basse fosse, dans des geôles absolument sordides, tous les jeunes gens et en Europe qui avaient l'audace d'appeler à la révolution. et au renversement des pouvoirs établis. Et c'était célèbre partout, puisque un des plus grands poètes romantiques italiens, qui s'appelait Silvio Pellico, avait été coffré au Spielberg et y avait passé un certain nombre d'années où il avait croupi avant de pouvoir tout de même en sortir et d'écrire un livre qui avait eu un retentissement, on peut dire européen, qui s'appelait I miei prigioni, mes prisons, où il racontait justement ses années de captivité bestiale. Bon. Donc, les premiers lecteurs de la Chartreuse de Parme, en voyant la Tour Farnèse, ont immédiatement compris lire le Spielberg. Donc, le Spielberg, la Tour Farnèse est pleine de prisonniers. Ce sont des prisonniers qui peuvent être oubliés définitivement. On a plus personne ne s'en occupe et on peut mourir là de manière très facile. Et il y règne une véritable terreur, puisque on n'y exécute pas les prisonniers, mais, et c'est peut-être encore pire, me semble-t-il, on organise le directeur de la prison, c'est-à-dire le père de la douce Clélia, dont nous allons bientôt faire la connaissance, le général Conti, qui est le directeur de la prison, aux ordres du prince, et qui agit évidemment selon les ordres qu'il reçoit, eh bien, organise des simulacres d'exécution pour briser complètement le moral des prisonniers. C'est-à-dire, on leur bande les yeux, on les conduit au poteau on aligne devant eux un peloton d'exécution qui tire à blanc. Donc, ils reviennent dans leur... On fait semblant de les exécuter, mais ils ont vécu l'agonie, n'est-ce pas, de cette espèce de répétition de mise à mort. Vous savez d'ailleurs que ça a été vécu par le grand écrivain russe Dostoïevski, qui dans le goulag sibérien a dû subir un simulacre d'exécution. On peut imaginer qu'il est impossible de s'en remettre. Comment, quand on a été victime d'une pareille épreuve, pourrait-on retrouver son équilibre psychique? C'est absolument terrifiant, naturellement. Mais voilà le quotidien de la Tour Farnèse. Donc, comment est-ce qu'on peut parler d'opérette, voyez? Donc, il y a une peur qui rôde partout et évidemment qui est destinée à décourager tout engagement politique. Qui aurait la folle audace ou l'inconscience plutôt de prendre des risques pour s'affirmer révolutionnaire dans un monde comme celui-là? Mais je voudrais compléter mon analyse à propos de la peur que ressent le pouvoir lui-même. Ça, c'est la punition du despote, du tyran. Il a toujours peur que des terroristes, le mot n'était pas employé à l'époque, mais nous l'employons nous, des terroristes soient planqués quelque part et dans l'ombre complotent pour jeter une bombe dans sa chambre à coucher. Vous savez qu'il est victime de terreurs irrationnelles et il appelle le comte Mosca quelquefois au milieu de la nuit pour lui, son premier ministre, pour lui demander d'aller regarder sous son lit s'il n'y aurait pas des révolutionnaires cachés ou si on n'aurait pas déposé dans les étuis des contrebasses de l'orchestre princier des engins explosifs. Donc, si vous voulez, c'est un aspect évidemment stupide et qui pourrait faire rire, mais ça donne plutôt, c'est plutôt glaçant, je trouve. Et là, c'est évidemment le châtiment du maître qui n'a pas confiance dans ses esclaves parce qu'il a, il se rend bien compte qu'il les opprime et il se dit un jour ou l'autre, ils vont se venger et je serai leur victime. Donc, vous voyez, aussi bien le dominant que les dominés sont en proie à la peur. Et c'est vraiment l'élément qu'on respire dans cette principauté de Parme qui, extérieurement, peut paraître si aimable, si charmante. En fait, c'est un monde où la politique est complètement pervertie. L'ordre politique est totalement pourri. Songez que Fabio Conti, le père de Clélia, le directeur de la prison, passe pour le chef du parti libéral. Les cheveux se dressent sur notre tête quand nous lisons une pareille aberration. Comment, quand on est le docile et le servile exécutant d'une politique politique aussi oppressive, peut-on se flatter, peut-on se présenter avec l'étiquette de chef du parti libéral? Ça veut dire tout ça, c'est-à-dire de gauche. Ça veut dire tout simplement qu'il n'y a pas, les mots n'ont plus de sens. Les mots ont perdu toute épaisseur et tout sens. Et alors, qu'est-ce qui reste? Eh bien, au jour le jour, c'est les petites intrigues minables, hein, les intrigues minuscules, microscopiques, hein, autour du trône, bon, les luttes de partis, de factions, d'influences, quelque chose de dérisoire. En effet, comme du temps de Versailles, la faveur, quel est le propre du régime monarchique? C'est qu'il fonctionne sur la faveur et aussi bien la disgrâce. Un jour, vous êtes le roi, vous offre sans aucune raison une promotion merveilleuse. Et le lendemain, il ne vous regarde plus et il vous tombez sans savoir pourquoi dans le néant. Vous êtes arrivé, par exemple, à Racine. Racine qui, à Versailles, était tous les jours sur le passage de Louis XIV, qui pendant des années a été soutenu et favorisé par Louis XIV. Et puis un jour, Racine constate avec horreur que Louis XIV ne le regarde plus. Et alors là, il comprend, je lui ai déplu. Qu'est-ce que j'ai bien pu dire? Qu'est-ce que j'ai bien pu faire? Qu'est-ce que j'ai bien pu écrire pour tomber en disgrâce? Et alors là, dans ce système, la disgrâce, c'est le néant. On n'existe plus, n'est-ce pas? Si le regard du souverain ne vous soutient plus, ne vous confère plus, ne vous apporte plus l'existence, on tombe absolument dans le non-être, hein, on est absolument pulvérisé et désintégré. Donc c'est la faveur, c'est la disgrâce, et plus cruellement, c'est simplement le rapport de force. Évidemment, la force, elle est toute du même côté. C'est-à-dire que le pouvoir peut se permettre tous les chantages. Et la duchesse Sanseverina va s'en rendre, qui pendant si longtemps, ça ne l'avait certainement jamais empêché de dormir tant que ça concernait les autres et pas elle, eh bien, elle va évidemment être d'un seul coup découvrir à ses dépens ce que c'est que le rapport de force implacable dans ce système politique complètement perverti. C'est quand le prince lui dit, ou vous couchez avec moi, ou votre neveu Fabrice adoré ne sortira jamais de la prison. Donc là, elle est au pied du mur et elle est obligée d'y passer, la malheureuse. Et à ce moment-là, évidemment, elle accède à la conscience civique. Elle qui vivait jusqu'alors dans une inconscience de grande dame, de grande privilégiée, qui profitait du système sans jamais s'être posé la moindre question sur ses tenants et ses aboutissants et de savoir si elle faisait ce système dont elle était tellement bénéficiaire parce qu'elle était du côté du manche, si ce système était monstrueux ou injuste. Alors là, quand elle est pour la première fois victime de ce chantage, elle comprend évidemment toute l'horreur et le côté indéfendable et immoral du système. Donc, voyez, sous la comédie du pouvoir, indubitablement, il y a un côté amusant, jeu d'échecs. D'ailleurs, c'est ça qui l'a attiré à Parme. Hein. Le comte Mosca lui dit, écoutez, si vous voulez venir vivre avec moi à Parme, c'est très intéressant, une cour. Hein. Alors ça, c'est le monde du duc de Saint-Simon. Vous savez qu'une des grandes admirations de Stendhal, c'était les mémoires où le duc de Saint-Simon avait raconté toutes les intrigues incroyablement compliqué, d'une complication chinoise, hein, dans les coulisses de Versailles, tout ce qui grenouille autour du pouvoir, hein, eh bien, lui dit, c'est très intéressant, c'est comme un jeu, hein, c'est comme un jeu d'échecs, comme un jeu de dames, c'est très intéressant d'étudier les coups de partie, d'essayer de faire son adversaire échec et mat, etc. C'est passionnant, une cour à observer dans le détail, quand on a un poste d'observation qui permet de voir le dessous des cartes, justement, ce que le public, l'opinion ne connaîtra pas. Bon. Donc, alors, sous ce côté-là qui peut exercer une certaine séduction, évidemment, on voit bien que l'envers est tout à fait désolant. C'est un crève-cœur. Évidemment, ça ne peut être qu'un crève-cœur, la situation de Parme, pour quiconque a un peu de conscience et d'exigence civique. Bon. Alors, quel est le rôle du comte Mosca dans ce paysage? Comment un homme aussi éminent, aussi intelligent, aussi même génial que le comte Mosca, hein, sa réputation est immense dans toute l'Italie, on considère que c'est le plus grand homme d'État de toute l'Italie, et on envie le prince de Parme d'avoir su s'attacher les services de quelqu'un d'aussi exceptionnel. Alors, il faut rappeler quand même qu'avant d'arriver au poste qu'il occupe à Parme, dans le roman, il a eu un passé, évidemment, qu'il ne faut pas oublier, qu'il n'a pas oublié. Mosca, quand il était jeune, a été officier de Napoléon. En 1812, il s'est battu avec les Français en Espagne, dans la guerre malheureuse de Napoléon en Espagne. Et il dit qu'il avait le feu sacré et que pour lui, un mot de son général, un mot de félicitation de son général, pour l'obtenir, il exposait sa vie. Donc c'est quelqu'un qui a été généreux, c'est quelqu'un qui a su prendre des risques. Alors quand on voit ce qu'il est devenu, un homme de 50 ans qui met tout son talent, qui est formidable, au service d'une triste crapule comme le prince de Parme, on se dit évidemment qu'il n'a pas évolué vraiment du bon côté. Alors, à quoi il en est le premier conscient. Alors, il explique à son ami et la duchesse Sanseverina, il lui dit, d'abord, il fallait que je gagne ma vie. Bon, ça, évidemment, c'est une raison qu'on ne peut pas mépriser, parce que pour pouvoir mépriser un pareil motif, il faut avoir soi-même les moyens. Il a dit, j'étais pauvre, j'avais rien, j'ai pas de fortune de famille, j'ai cherché un poste, tout simplement, j'ai trouvé du travail. Il a dû passer un entretien avec le prince de Parme, et puis il a décroché la timbale, et puis peu à peu, il a assis sa situation, il l'a étayé, il l'a consolidé, et il est devenu peu à peu le personnage clé indispensable du fonctionnement du régime. Bon, donc on pourrait dire peut-être il a retourné sa veste et il n'a plus rien de commun avec le jeune homme idéaliste, généreux et napoléonien qu'il a été. Un détail physique le montrerait, c'est qu'il porte de la poudre. Il porte une perruque et de la poudre. C'est l'uniforme obligatoire dans les cours monarchiques. Or, sous la Révolution, évidemment, abat les perruques, n'est-ce pas, et plus de poudre, évidemment, on a ses cheveux, et dans leur naturel, comme symbole, justement, de refus, de rejet, de tous les mensonges qui sont imposés par un système qui est celui du masque, et de la dissimulation, et de l'hypocrisie, n'est-ce pas. Donc voilà, l'homme à la perruque poudrée, comment peut-on dire qu'il est resté le même, alors que il a complètement, semble-t-il, viré de bord. Alors, je ne voudrais pas accabler Mosca, d'autant plus qu'il est clair que Stendhal se projette en Mosca. Dans le roman, Stendhal ne se prend pas pour Fabrice. Stendhal, vous le savez, était très laid. Il était corpulent et il était de très vulgaire et un esprit tellement brillant et tellement fin souffrait d'être inclus dans une enveloppe qui physiquement était rien moins que séduisante. Alors on peut dire que Fabrice est le fils qu'il n'a jamais eu, c'est le fils qu'il aurait aimé avoir, ou c'est le jeune homme qu'il aurait aimé être quand il avait son âge. Mais surtout quand il écrit La Chartreuse, Stendhal à la cinquantaine, il se projette évidemment dans le personnage de Mosca, qui a un grand pouvoir politique, alors que le pauvre Stendhal, lui, végète dans son trou de Civitavecchia, dans les états du pape, dans un poste consulaire, il est consul de France, c'est-à-dire son travail consiste à tamponner des passeports et à vérifier les cargaisons de sardines ou de je ne sais quoi que transportent les bateaux qui font escale dans son port. Enfin, c'est du travail, c'est de la gestion administrative vraiment complètement subalterne et assez pitoyable. Donc, comment imaginer qu'il n'a pas une sympathie profonde pour celui qui serait son double idéal, celui qu'il aurait tant voulu être, et il se sentait la capacité de l'être, c'est-à-dire un homme politique véritablement visionnaire et qui a su se rendre indispensable. Bon. Donc, ce qu'on peut dire de Mosca, c'est qu'il est là pour limiter les dégâts. Mosca a complètement jugé et jaugé la nullité de son maître. Il sait très bien que le prince a besoin de lui, que sans lui, le prince sait rien, ne saurait absolument pas se débrouiller, ne saurait absolument pas gouverner. Et que surtout, s'il n'était pas là, le prince se livrait à des absurdes, se livrerait immanquablement à une politique absurde qui se retournerait contre lui. Par exemple, sur un coup d'impulsion, il serait capable de faire pendre des opposants, bon, ou des supposés opposants. Donc, ce serait évidemment désastreux pour ce qu'on appellerait, nous, aujourd'hui, son image. et toute l'Europe évidemment serait défavorablement impressionnée par de pareils agissements. Donc Mosca est là pour lui éviter les grosses bourdes, les grosses gaffes, nous dirions familièrement, que le prince serait tenté de commettre. Sans lui, ce serait bien pire. Et on le voit d'ailleurs au moment où, vous savez, à Parme a lieu une mini-révolution ou une pseudo-révolution, je vais en parler dans un instant à propos de Ferrante Palla, hein, et heureusement que Mosca est là, parce que grâce à lui, ça ne dégénère pas. Hein. Il y a quelques morts, bon, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, mais c'est bien fâcheux, mais en fait, ça s'arrête très vite. Mosca, avec sang-froid, avec surtout ce qu'il caractérise, c'est-à-dire une profonde intelligence, sait tout de suite prendre les mesures nécessaires pour enrayer le processus et de faire en sorte que cette révolution avorte très vite et sans aucun espoir de reprendre. Donc, ça, c'est le côté positif de Mosca. Il y en a un autre qui est moins, peut-être moins gratifiant. Mosca est tous les jours humilié. Il souffre d'être en position, de sa position. Le prince, quelquefois, prend plaisir sadique à le torturer en lui faisant bien sentir que c'est lui le patron. Et que Mosca n'est que l'exécutant, n'est-ce pas? Vous savez, il y avait un célèbre président de la République récent qui traitait son premier ministre de collaborateur. Ça ne lui avait pas plu, n'est-ce pas? Bon, parce que c'était évidemment le rabaisser à un niveau vraiment subalterne, n'est-ce pas? Bon, bien alors, le prince s'y entend pour larder son premier ministre de mots piquants quand ça barde entre eux, pour lui rappeler qui est qui, et qu'il est une sorte de laquais supérieur, mais que du jour au lendemain, il peut être licencié. Avec il dépend, son sort, sa situation dépend entièrement de la faveur. Et rien n'est plus mouvant et n'est plus fragile que la faveur dans un régime comme celui-là. Alors, Mosca essaie de lutter contre ce sentiment d'humiliation qu'il ressent souvent, mais en même temps, il faut bien comprendre que c'est un drogué de la politique. C'est quelqu'un pour qui la politique, c'est vraiment l'oxygène dont il ne peut pas se passer. C'est très frappant que, vous savez, avec la duchesse, quand vraiment il en a assez, quand vraiment Fabrice est trop persécuté, quand vraiment il a l'impression que le prince vraiment exagère avec ses provocations et essaie de savoir jusqu'où il pourra aller jusqu'à le décourager et le faire lâcher prise. Mosca dit à la Sanseverina, écoutez, j'en ai assez, vraiment j'en peux plus, j'avale des couleuvres du matin au soir, je plaque tout, je démissionne et on part, vous et moi, à Naples, où on va vivre d'amour et d'eau fraîche, ou plutôt de vin du Vésuve. Bon, donc, on va perdre beaucoup d'argent, mais on sera heureux, on vivra d'amour, tant pis, je sacrifie ma position très lucrative, et, mais c'est vraiment, elle me coûte trop cher moralement, et j'abandonne tout, et on va tous les deux ailleurs, bien loin de là, vivre ensemble joyeusement. Bon. Or, ce qui est très frappant, c'est qu'il ne passe jamais à l'acte. Hein, pas une seule fois, il ne met ce rêve à exécution, parce qu'on comprend très bien qu'il serait immédiatement en état de manque, exactement comme un drogué qui serait brusquement sevré de son stupéfiant, de sa drogue. Bon, donc, nous le voyons, quand nous faisons sa connaissance, il est Premier ministre. À la fin du roman, au bout de 600 pages, il est toujours Premier ministre, il n'a pas bougé d'un iota, il est toujours là, il est même, on va le voir, le seul qui reste là, parce que, véritablement, pour lui, il n'y a pas de vie pensable en dehors de la politique. Et évidemment, ça pose de graves questions sur son rapport avec l'amour. Quelle place y a-t-il pour l'amour dans ces conditions chez lui, dans sa vie? Si vraiment la politique c'est son univers dont il ne peut pas se passer, alors je ne mets pas en doute la sincérité de son amour pour la Sanseverina, je le crois tout à fait sincère, mais en même temps il est frappant qu'il n'est pas capable de renoncer aux gratifications symboliques que lui apporte sa situation politique pour ne se consacrer qu'à l'amour. Et dans mon interprétation de la fin du roman, dans quelques instants, bien écoutez, je reviendrai sur cette idée parce que je crois vraiment un peu dérangeante pour l'idée qu'on se fait de Mosca, mais je crois que c'est vraiment une question qu'on peut se poser. Bon, donc et d'ailleurs, il voit quand il surprend entre la duchesse Sanseverina et son neveu Fabrice, quand il surprend des regards de tendresse, des scènes d'intimité qui sont presque de l'amour, puisque il en arrive à dire bon, il suffirait que l'un d'eux fasse un geste et tout basculerait. Alors, il ne précise pas, mais on comprend bien dans l'inceste, n'est-ce pas ? Bon, La Chartreuse de Parme est un roman où l'inceste est présent. Alors, l'inceste, ce n'est pas un inceste entre mère et fille, mais vous voyez, en mère et fils, mais vous voyez bien, évidemment, que la duchesse Sanseverina est une sorte de personnage de substitut maternel, n'est-ce pas ? Bon, elle est une sorte de deuxième mère pour Fabrice. Et ses relations d'amour pour son neveu, une relation bien naturelle, une tante aime son neveu, c'est clair, et réciproquement, mais ne sont pas exactement modérées, et qu'elles ont une tonalité, elles se déroulent dans un climat où on a l'impression qu'effectivement ça pourrait très vite prendre un autre ton. Et Fabrice s'en rend bien compte, il dit mais au fond, qu'est-ce que ça veut dire notre attitude à tous les deux ? Elle m'aime, mais elle m'aime plus ou elle m'aime trop qu'elle ne devrait m'aimer, et donc il faut ramener cet amour dans les limites d'un sentiment familial et permis. Pour confirmer que le spectre de l'inceste rôde bien dans La Chartreuse de Parme, on peut rappeler l'origine de la construction de la tour Farnèse. Stendhal explique qu'elle a été construite pour emprisonner une princesse qui avait trop aimé son beau-fils, comme Phèdre dans la pièce de Racine. Donc c'est un amour qui est réputé incestueux. Donc, et cela plonge des racines profondes dans la vie psychique de Henri Bell, de Stendhal lui-même, puisqu'il nous raconte dans son autobiographie qui s'appelle « La vie de Henri Brulard » qu'il était amoureux de sa mère, mais amoureux pas... selon la métaphore, enfin, banale, tous les enfants aiment maman, naturellement, mais qu'il aurait voulu faire l'amour avec sa mère. Il le dit avec une audace remarquable pour quelqu'un qui écrit en 1835, avant le docteur Freud. Hein, on a pu dire de manière un peu amusante que le complexe d'Édipe a été inventé, non pas comme tout le monde le raconte, par le docteur Freud à Vienne, mais par Stendhal à Grenoble, quand il avait 7 ans. Vous savez qu'il a eu la catastrophe inaugurale et fondatrice de son existence, c'est qu'il a eu le malheur de perdre cette maman adorée quand il avait 7 ans. Et on peut dire qu'il s'en est jamais remis, que peut-être qu'à travers toutes les femmes qu'il a désirées et aimées, c'est ce visage de sa mère qu'il a essayé de retrouver. Alors cela, il faut le savoir pour crayonner un peu l'arrière-fond du personnage de la duchesse Sanseverina et de ses relations plus trouble qu'on ne pourrait croire avec son délicieux neveu Fabrice. Bon. Donc, j'ai perdu mon fil, je m'en excuse, je ferme cette parenthèse incestueuse et je reviens à la situation politique de Parme. J'ai évoqué tout à l'heure la pseudo ou mini-révolution qui agite la ville à un certain moment donné et qui est le résultat de l'agitation entretenue par Ferrante Palla. Alors il faut dire deux mots de ce personnage qui n'est pas seulement anecdotique ou pittoresque, il l'est. Vous savez que c'est le médecin des pauvres, et en même temps c'est un bandit de grand chemin, c'est-à-dire il a une idée fixe, c'est celui d'amener la République à Parme. Bon, il veut chasser la royauté et instaurer la République à Parme. Alors, pour ça, il faut des fonds. Bon, donc, pour recueillir des fonds, que faire ? Il n'en a pas, il est pauvre, il a de nombreux enfants qu'il a du mal à nourrir, car c'est un médecin qui ne se fait pas payer, qui est le médecin des pauvres et il soigne des gens qui n'ont pas de quoi le payer. Donc il n'a rien. Alors il se décide donc à détrousser les voyageurs sur les grands chemins, mais comme c'est un être fondamentalement vertueux et honnête, car c'est un républicain pur, pur et dur, qui a vraiment un idéal de lutte contre toute corruption. Il prend soigneusement note, à chaque fois qu'il détrousse un voyageur, de tout ce qu'il lui vole, en lui disant « Tout cela vous sera scrupuleusement rendu au centime près quand la République aura triomphé. » Donc, c'est une sorte de prêt obligé, hein, mais donc on tient le registre des comptes parfaitement bien, et au jour où on aura atteint son but, c'est-à-dire où il règnera la pureté républicaine à Parme, tous les gens à qui on a tout pris sur la route, on le leur rendra. Bon, alors tout ça est touchant évidemment, et la duchesse Sanseverina va être touchée par l'idéalisme naïf mais attachant de ce personnage qui a des valeurs vraiment et qui croit en des valeurs. Il est le seul à Parme à avoir des valeurs, à y croire. Donc de ce point de vue-là, c'est un personnage éminemment positif. J'ajoute un détail qui n'en est pas un, c'est qu'il se trouve en plus que c'est le plus grand poète italien vivant. Il écrit des sonnets sublimes, n'est-ce pas ? Donc c'est en plus un génie poétique, mais en même temps qui ne voit que c'est une tête un peu fêlée. C'est un personnage extraordinaire dans tous les sens du terme, mais il est un peu timbré. Il gambade comme un faune dans la forêt, il tombe amoureux de la duchesse, évidemment, ce qui n'a aucun sens, et il est prêt à tout pour la servir. Il va même assassiner le prince pour lui complaire. Ça sera la vengeance de la duchesse. Il en sera le bras armé. Mais il est absolument seul. Il n'y a personne avec lui. Et Stendhal pose ironiquement la question, comment faire une république sans républicains ? Il est le seul, donc il n'a aucune troupe. Bon, peut-être 2-3 pauvres hères qui le suivent sans avoir aucun moyen de passer à l'acte. Et donc, il est voué à l'échec, et c'est pourquoi sa tentative sera un misérable échec. Donc, c'est un personnage, si vous voulez, qui est très très riche de sens, parce que il est, d'un certain point de vue, décourageant, puisqu'il montre que dans le contexte où il est supposé, où il opère, et ce contexte qu'il voudrait transformer et renverser, il n'a aucun moyen, et donc il est réduit à la complète impuissance. Si, comme le dit Stendhal souvent, le propre du grand politique, c'est d'adapter ses fins à ses moyens, et réciproquement, Ferrante Palla est une sorte de dément inoffensif, mais de dément, puisqu'il a une fin évidemment grandiose, la République, la liberté pour tous, mais en même temps, il n'a aucun moyen. Donc, dans ces conditions, comment vouloir prétendre transformer le monde, changer la réalité ? C'est une illusion complète, c'est une forme de délire. Bon, il ne mérite pas d'être enfermé, c'est pas un dément au sens psychiatrique, mais c'est un homme qui marche l'illusion, qui rumine complètement le rêve et qui n'a aucune prise sur la réalité telle qu'elle est. Donc, vous voyez, c'est pas, il ne propose aucune alternative oppositionnelle dans le système parmesan. Alors, arrivons-en maintenant à l'essentiel, c'est-à-dire à Fabrice et Clélia. Dans son traité de l'amour, et dans son le traité de l'amour, c'est un livre qui a été publié par Stendhal en 1822, dans lequel il analyse l'amour comme une maladie. Ça, c'est présenté comme un livre de médecine. Il dit voilà, l'amour c'est une pathologie, c'est une forme de délire qui consiste à prêter à un objet au sens du XVIIe siècle, l'objet aimé, n'est-ce pas, lui prêter des perfections qu'il n'a pas, des perfections imaginaires. Et vous savez qu'il prend une très jolie comparaison. Il a vu près de Vienne, près de Salzbourg en Autriche, où il a été dans l'armée de Napoléon, il a visité une mine de sel qu'on peut visiter encore aujourd'hui, et il a vu que si on trempe dans le sel un rameau de sapin et qu'on le retrouve quelques semaines ou quelques mois après, ce rameau qui était tout nu, évidemment, s'est revêtu d'un habillage absolument féerique de cristaux miroitants, qui sont évidemment les cristaux de sel, qui se sont peu à peu déposés et agrégés sur le squelette, n'est-ce pas, du brin de résineux, de sapin. Alors, Stendhal a été très séduit par cette image et il a décidé d'appeler, d'un mot qui a fait fortune, cristallisation, ce phénomène amoureux qui consiste à parer de perfection qui n'existe pas en fait objectivement un objet, une femme, qui vous voulez, qui évidemment devient complètement fantastique. Et qui dit cristallisation dit malheureusement et presque fatalement, un jour ou l'autre, décristallisation. C'est-à-dire que trop souvent, hélas, un jour vient où les cristaux se mettent à fondre, peu à peu, n'est-ce pas ? Et puis peu à peu, tous ces merveilleux diamants disparaissent, se révèlent pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire rien, et la branche de sapin retrouve sa nudité et sa banalité première et originale. Et alors on se dit, j'ai pu me mettre dans des états pareils pour ça. Tout ça pour ça. Quelle folie! Donc c'est une forme de démence, n'est-ce pas, au lieu de Stendhal. Alors, Stendhal, dans De l'amour et dans son autobiographie, dit, il y a deux sortes d'amoureux. Il y a les amoureux de la famille Werther et les amoureux de la famille Don Juan. Alors, les amoureux de la famille Don Juan, si vous voulez, c'était le premier Fabrice, avant qu'il ne rencontre Clélia. C'est-à-dire, Don Juan, il additionne les conquêtes, hein, il stocke les femmes. Vous savez, dans l'opéra de Mozart, Don Giovanni, tiré de la pièce de Molière, il a un secrétaire, hein, Sganarelle dans la pièce de Molière, Leporello dans l'opéra de Mozart, qui tient les statistiques pays par pays de toutes les conquêtes de son patron, de Don Juan. Alors, chez Mozart, il dit, voilà, alors en Espagne, 350, en Angleterre, 280, en France, 500, etc. Et il fait le compte, il y en a 1003. Au point où on en est, et Don Juan est en pleine jeunesse, on en est déjà à 1003. Femme. Donc, et aujourd'hui, enfin, le Don Juan moderne fait ça sur ordinateur, naturellement, mais le bon secrétaire fait ça à la main et son compte certainement très scrupuleux. Bon, et qu'est-ce qui reste au bout de tout ça à Don Juan ? Zéro. Zéro. Plus le nombre gonfle, plus ça devient absolument insignifiant. Ce sont des corps qui succèdent à des corps, et il n'y a rien d'autre. Il n'y a jamais aucun investissement profond. Bon. Opposé à cette famille de Don Juan, il y a la famille Werther. Werther, les souffrances du jeune Werther, le héros du roman de Goethe, hein, qui a été un bréviaire pour toute la génération romantique et que, comme tout le monde, Stendhal connaissait par cœur. Le jeune Werther qui souffre d'amour impossible pour sa divine Charlotte, qui sera mariée à un autre. Werther qui ne touchera jamais Charlotte et qui se suicide par désespoir d'amour impossible. Et Stendhal, de manière paradoxale, évidemment, pose la question des deux, quel est le plus heureux ? Est-ce celui à qui tout a réussi, qui n'a qu'à faire ça pour que toutes les femmes lui tombent dans les bras ? Ou est-ce celui qui mourra vierge, sans avoir jamais consommé son amour, qui est un mirage, hein, et qui est condamné à assister à la possession de l'être essentiel pour lui par un autre ? Donc il y a là, et Stendhal répond, eh bien c'est Werther le plus heureux. C'est-à-dire qu'il y a plus de sens et plus de plénitude spirituelle à aimer, même si c'est un échec, à aimer à sens unique, hein, sans être payé de retour. Il y a plus de sens et de plénitude spirituelle à aimer qu'à être aimé ou à être désiré de façon quasi mécanique, comme chez Don Juan. Bon. Alors, Fabrice et Don Juan jusqu'à cette épiphanie. Vous savez ce que c'est que l'épiphanie ? C'est un terme de liturgie chrétienne qui désigne la fête de la révélation, où Jésus se révèle. L'épiphanie, c'est le sens de ce mot. Bon, ce mot grec. Alors, l'apparition de Clélia vient d'un seul coup bouleverser et même, je dirais, dynamiter complètement l'état de choses qui précédait. L'état de choses qui était en quelque sorte bloqué. Fabrice était parti pour être toute sa vie un séducteur quasi professionnel, mais qui ne s'attache jamais à personne, ni à rien. Bon. Et alors, le personnage de Clélia qu'il découvre introduit dans son paysage moral et spirituel et affectif quelque chose d'absolument révolutionnaire, quelque chose qu'il n'avait encore jamais rencontré. Il n'était qu'amour, mais il comprend qu'il n'avait jamais su encore ce que c'était que l'amour. Et le visage de Clélia est une révélation absolue pour lui. L'amour, c'est elle. Et ça ne peut être qu'elle, et ça ne sera toujours qu'elle. Et pourtant, cette petite Clélia Conti, elle est mal partie, hein, d'être la fille du geôlier pseudo-libéral. Et c'est vraiment quelque chose de paradoxal de voir que c'est entre les quatre murs d'une terrible prison, d'une prison féroce, que va éclore le miracle tellement fragile et tellement puissant, hein, à travers simplement d'abord des échanges de regards, parce que la communication est très difficile, sinon impossible, hein, qui rappelle tout à fait l'amour courtois, hein, l'amour de loin. Physiquement, Fabrice et Clélia sont proches l'un de l'autre. Clélia habite dans la prison, dans l'appartement de fonction de son papa, qui en est le chef. Et donc, elle sait que le prisonnier n'est pas loin d'elle quand elle est sur sa terrasse aux oiseaux. Ils sont très près l'un de l'autre et en même temps, ils sont séparés par des murs absolument infranchissables et on se demande comment ils pourraient jamais arriver à communiquer et à se rejoindre. Et vous voyez ce magnifique paradoxe développé par Stendhal, c'est dans l'espace de l'incarcération, de l'emprisonnement, qu'a lieu la libération la plus essentielle et la plus profonde. Ils ouvrent leurs ailes justement dans l'endroit où ils ne peuvent pas s'envoler, hein, d'où l'on ne peut pas s'échapper. Et si je parle d'ouvrir les ailes, c'est parce que vraiment Stendhal nous fait assister à une véritable éclosion. Hein. Ce sont... Clélia n'a jamais connu l'amour. Fabrice est le premier garçon auquel elle s'intéresse. Fabrice, lui, a toute une histoire sexuelle. Il a fait l'amour des milliers de fois. C'est ce que c'est que la partie physique de l'amour. Bon, donc, ils ne sont pas sur le même plan du tout. Mais ils sont sur le même plan dans leur... Il y a une sorte de virginité intérieure de Fabrice. Objectivement, il est tout sauf vierge. Et pourtant, il est resté vierge puisqu'il n'a jamais été effleuré par l'aile de l'amour véritable. Donc, ils vont s'entre-découvrir l'un l'autre. Et en s'entre-découvrant, ils vont découvrir une réalité qu'ils ne soupçonnaient pas. Et ils vont réinventer à partir de zéro l'amour. Bon, c'est une banalité, hein. Un couple d'amoureux, s'imagine toujours qu'ils sont les premiers amoureux du monde. On réinvente tout. Et Stendhal, évidemment, se délecte à nous détailler comment ils inventent une langue, un langage. Vous savez, système avec l'alphabet, ils font des grandes lettres, ils montent comme ça depuis la fenêtre, tant que Fabrice peut avoir un regard sur la cour avant qu'on ne bouche sa fenêtre complètement. Hein, donc, ils inventent. Ils reprennent l'amour à littéralement, hein, pour arriver à former des mots et des phrases pour peu à peu échanger, avec tous les obstacles qu'il faut franchir, et dans le secret et la transgression, et avec le risque maximal d'être surpris et avec les conséquences terribles qu'on imagine. Bon. Alors... c'est évidemment le sommet du roman, tous ces épisodes de la prison, et qui amène Clélia, cette petite jeune fille soumise, hein, soumise à papa, très, très pieuse, hein, c'est très important, la piété de Clélia, hein, elle est très très pieuse, elle a un oncle prêtre, qui est l'aumônier de la prison, elle passe son temps à l'église, à la messe, en prière. Chez Stendhal, les femmes désirables sont toujours des femmes pieuses, ce qui est un paradoxe chez quelqu'un qui, comme Stendhal, était athée et anticlérical. Mais pour Stendhal, la piété chez la femme, la religiosité chez la femme, était l'indice d'une plus grande sensibilité. Parce que dans la religion chrétienne, il y a quelque chose de féminin, comme l'a dit d'ailleurs Baudelaire, hein, qui mobilise les sensibilités féminines de manière élective. Donc, ce n'est pas du tout une tare dans l'univers stendhalien pour une femme d'aller à la messe. C'est même tout le contraire. Ça la désigne comme un être capable de tendresse, qui a des trésors dans le cœur. Bon. Donc, cette petite jeune fille, incapable de se révolter, de se rebeller, qui est le contraire d'une féministe et d'une agitatrice, voilà qu'elle va être amenée par le développement naturel, logique et spontané du sentiment amoureux, à découvrir en elle des ressources de révolte et de désobéissance qu'elle ignorait complètement. Rendez-vous compte qu'elle va en venir à dissimuler sous ses robes des métrages de cordes pour aider Fabrice à s'évader. C'est-à-dire, elle va ruiner la carrière de son père. Elle sait très bien que si Fabrice réussit son évasion, qui va en être rendu responsable? Son père, qui va être destitué ou châtié. Donc c'est comme si, c'est une sorte de meurtre symbolique. Clélia Conti, en aidant Fabrice à recouvrer sa liberté et à déguerpir, tue son père. Et d'ailleurs, elle se le reprochera si terriblement qu'à la suite de cela, pour s'auto-punir, se châtier elle-même, elle fera vœu de ne jamais revoir Fabrice. Bon. Donc, l'amour est un principe fécondateur, séminal vraiment, qui permet vraiment d'accoucher de soi-même et de découvrir en soi des ressources qu'on ne soupçonnait pas. Vous savez, vous connaissez la phrase de Nietzsche, hein, il faut devenir qui l'on est. Il dit voilà, et la plupart des êtres humains malheureusement meurent sans s'être jamais rencontrés au fond, sans être jamais devenus qui ils étaient profondément, sans avoir jamais assumé leur être profond. Eh bien, c'est ce qui se passe dans l'amour chez Stendhal. Et dans Le Rouge et le Noir, c'est exactement la même chose. Madame de Rênal, la maîtresse de Julien Sorel, est elle aussi une femme extrêmement pieuse, et qui en arrive à dire dans une autre prison, celle de Besançon, où croupit Julien Sorel avant d'être guillotiné, elle lui dit cette phrase inouïe, « Si tu me le demandais, je tuerais ». Dans la bouche de Madame de Rênal, ces mots sont insensés. Comment une femme aussi douce, comment une femme aussi paisible, comment une femme aussi réservée peut-elle en arriver à dire des monstruosités pareilles? Ben, tout simplement, c'est qu'elle est, c'est une femme en amour, c'est-à-dire qu'elle est en train véritablement de devenir qui elle est et qu'elle vit maintenant selon elle-même et non pas selon le catéchisme imposé par la société ou par son entourage, et qu'elle place comme valeur suprême et unique de sa vision du monde, l'amour avec toutes ses conséquences, quelles qu'elles doivent être. Alors, je m'achemine vers ma conclusion, est-ce qu'on pourrait soutenir que La Chartreuse de Parme est un roman militant du point de vue politique? Alors, je crois qu'absolument pas. C'est un roman pragmatique et réaliste qui nous décrit un état de fait, hein, et qui analyse, qui dégonfle les baudruches, les illusions. Vous voyez, par exemple, avec Ferrante Palla, c'est quelqu'un qui a gonflé une baudruche très sympathique et à laquelle on voudrait croire, mais qui se dégonfle, qui se crève dès le premier contact avec les aspérités du réel. Bon. Donc, ce qui nous fait comprendre, je crois, c'est que l'amour fait passer à un autre ordre. Je prends le mot « ordre » dans le sens où Pascal emploie le mot « ordre » en disant « il y a différents ordres ». Alors, c'est un ordre supérieur. On voit bien qu'il y a l'ordre mesquin, un sous-ordre, un ordre misérable et subalterne qui est celui du calcul médiocre et de la volonté de puissance, c'est l'ordre du politique, c'est l'ordre du pouvoir dans lequel se meuvent les puissants. Et puis, il y a un ordre, j'ose à peine employer ce terme, qui a peut-être, vous allez peut-être trouver qu'il a une connotation trop religieuse, mais je crois que c'est cela quand même, au sens étymologique du terme, un ordre qu'on pourrait qualifier de transcendant, c'est-à-dire qui va au-delà, qui va plus loin, qui va plus haut, c'est-à-dire un ordre qui est celui de l'offrande, du don de soi, de l'élévation. L'amour est une expérience qui vous élève dans tous les sens du terme, et je crois qu'il y a une très forte valeur symbolique dans la position topographique que Stendhal a aménagée. Fabrice et Clélia sont dans les nuages, avec les oiseaux, tout en haut, en haut, en haut. Vous savez, quand il arrive à la prison, Fabrice se précipite vers la fenêtre qu'on n'a pas encore eu le temps d'obturer. Il se dilate en regardant jusque dans le lointain. Il voit les Alpes. Enfin, on monte des escaliers jusqu'en haut. C'est une épuration, c'est une élévation. Et il y a tout le grenouillage du marécage, du cloaque politique qui est en bas, hein, dans les fondations de la tour. Donc il y a quelque chose évidemment de très puissamment symbolique dans cette organisation de l'espace entre le bas et le haut. Et l'amour, c'est ce qui vous fait monter. Voilà. Alors là, il y aurait, je crois, une passerelle. Ça dépasse mes moyens et surtout le temps qui m'est imparti, mais à lancer, une passerelle volante, à lancer avec votre autre texte de votre programme, Le Banquet. Hein, où Platon, il y a un côté platonicien chez Stendhal, indubitablement dans la Chartreuse de Parme, où Platon nous montre que le désir pour un être beau, hein, nous fait monter comme un oiseau à tire-d'aile, hein, monte vers l'azur, vers le ciel, et nous exalte à essayer de rejoindre spirituellement, hein, dans le monde des hauteurs, l'idée de beauté, la beauté avec majuscule, la beauté en soi, la beauté incréée, dont le corps beau que nous désirons sur la terre n'est qu'un reflet fini et qui ne durera pas. Voyez. Donc cette ascension, cette aspiration ascensionnelle, je crois que c'est quelque chose qu'on pourrait comparer entre Platon et Stendhal. Alors simplement, ce qu'on peut observer dans la Chartreuse de Parme, c'est que cet amour si beau, si noble, s'use lui-même avec le temps ou se gâte. Par exemple, voyez comment Gina se dégrade. Cette femme si irrésistible, si brillante, si chaleureuse, qui vraiment est un personnage devant lequel tout le monde rend les armes parce qu'elle a un véritable génie de spontanéité et volcanique. Bon, à partir du moment où elle a une rivale, Clélia, elle devient aigrie, elle devient possessive, elle ne peut absolument pas supporter ni admettre qu'une autre femme lui prenne son Fabrice adoré. C'est là qu'on voit tout le côté, si vous voulez, rapace, hein, de l'amour. Et là, elle devient, d'un seul coup, elle perd ce qui faisait tout son charisme, tout son charme inoubliable, c'est-à-dire cette spontanéité, ce naturel, cette gaieté. Non, la Gina devient sombre parce que Fabrice lui échappe. Et elle n'est plus que l'ombre d'elle-même. Donc c'est l'usure à travers le temps. La possessivité se révèle. Et il y a ça aussi dans l'amour. Dans tout amour, peut-être, il y a la possibilité, la possessivité, la jalousie. Bon. Quant à Fabrice lui-même, eh bien, son amour clandestin avec Clélia, il le détruit de ses propres mains. Alors, il faut que vous sachiez que la fin de la Chartreuse de Parme, telle que nous la lisons, ne correspond que de très loin et très vaguement à ce que Stendhal avait voulu faire. Vous n'avez pas pu ne pas remarquer, en lisant le roman, j'espère que vous êtes allé jusqu'au bout, combien la fin est blackboulée, combien ça va à toute vitesse, à bride abattue, on n'y comprend pas grand-chose à vrai dire. En 2-3 pages, il y a une cascade d'événements dont on ne comprend pas bien l'enchaînement, parce que l'éditeur a imposé à Stendhal de supprimer une cinquantaine de pages. Il trouvait que c'était trop, ou même davantage. Il trouvait que c'était trop long comme ça. Il y avait déjà 2 tomes. Il ne voulait pas qu'il y en ait un troisième. Donc, il disait, bon, il faut finir. Et donc, Stendhal, qui nous raconte qu'il avait entrepris le roman uniquement pour arriver à la mort du petit Sandrino, c'est-à-dire le fils secret de Fabrice et de Clélia. Bon, la mort de Sandrino, elle apparaît en une phrase et on l'enregistre, c'est à peine si on l'enregistre dans le roman tel que nous le lisons, de même que la Chartreuse de Parme qui donne son titre, elle apparaît dans l'avant-dernier paragraphe, en un mot, puis c'est tout, on n'en saura pas plus. Donc la fin a été télescopée, comprimée et défigurée, pour dire les choses comme elles sont. Donc, mais ce n'est pas la faute de l'auteur, ce n'est pas qu'il a bâclé la fin, qu'il en avait assez, qu'il était fatigué, c'est qu'il a été victime d'exigences imbéciles de la part de son éditeur. Bon. Alors, simplement, il reste quand même le canevas des événements. Et ça, on est bien sûr que Stendhal l'avait prévu tel que nous le lisons. Fabrice qui est fatigué de ne pouvoir voir qu'en cachette son fils adoré, imagine un plan complètement tordu pour arriver à le voir en public et de manière ouverte. Alors, on fait semblant qu'il tombe malade et qu'il meurt. On met en scène une fausse mort qui permettra de le faire disparaître, de l'amener ailleurs, etc., de le faire ressurgir. Une chose d'une complication absolument impraticable qui se révèle absolument catastrophique puisque l'enfant tombe réellement malade et meurt réellement. Bon. Et tout ça par la faute de Fabrice, de son père, qui a tué de ses propres mains ce qu'il aimait, par ce que Stendhal appelle un caprice de paternité. Vous voyez. Donc tout se passe comme si l'amour, le bonheur ne pouvait pas durer, que d'une manière ou d'une autre, ça ne pouvait toujours que se terminer mal, qu'on pouvait jouir de parenthèses plus ou moins longues, mais qu'à un certain moment, ça dégénère et ça se termine par dans le malheur absolu. Alors, à la fin du roman, c'est la mort en domino, comme un château de cartes. Une carte tombe, ou un domino, il en entraîne un autre, il en entraîne un autre, il en entraîne un autre. Donc, c'est le petit Sandrino qui est le premier à mourir. Bon. La mort de Sandrino fait mourir sa mère. Clélia ne survit pas à la mort de son enfant. La mort de Clélia fait mourir symboliquement Fabrice. Il entre au monastère. Bon, il rompt avec le monde, il entre dans la Chartreuse, mort symbolique en attendant la mort réelle, et la mort de Fabrice entraîne la mort de Gina, qui reste la dernière. La mort de chacun entraîne celle des autres, une espèce de solidarité. Bon. Alors, il y en a un seul qui ne meurt pas, le rescapé. C'est Mosca, impavide, imperturbable, qui est là à la fin comme au début, devenu richissime, ça rapporte, ça lui a beaucoup rapporté, il est devenu un des hommes les plus riches d'Italie, il est toujours au pouvoir, indéboulonnable, n'est-ce pas ? Mais il est tout seul au milieu d'un champ de ruines. Il n'y a plus rien, il n'y a plus personne à aimer autour de lui. Bon. Donc, est-ce qu'on peut l'envier ? Est-ce que c'est un succès ? Est-ce que c'est un triomphe ? Est-ce que ce n'est pas au contraire un châtiment ? Est-ce qu'on ne peut pas dire que le châtiment de Mosca, s'il est vrai, ce qui peut se discuter, qu'il est celui qui aura été le moins amoureux de tout le personnel du roman, eh bien c'est de rester tout seul, hein, apparemment parfaitement épanoui, mais au fond, au milieu d'un désert, dans une solitude absolue. Donc, je pose la question pour terminer. Alors, vous voyez, en deux mots, Stendhal n'a pas écrit dans cet enchevêtrement de l'amour et de la politique, des enjeux complexes, il n'a pas écrit un roman à thèse, surtout pas, c'était tout à fait étranger à son tempérament. Mais il y a quand même une leçon qui se dégage, me semble-t-il, de toutes ces aventures. Dans son autobiographie, il se demande... le plus honnêtement possible, il dit « j'essaie de ne pas me mentir à moi-même, j'essaie de faire mon examen de conscience, je me demande, il a plus de 50 ans et au 19e siècle, quand on a plus de 50 ans, on est un vieux, on pense déjà à faire son testament et on peut se retourner sur sa vie parce qu'il n'y a plus rien qui va arriver de décisif. » Alors il dit « voilà, qu'est-ce qui aura été le plus important pour moi dans mon existence ?» Et il répond tout de suite « bon, c'est clair, ça a été l'amour ». Car a été pour moi, je le cite textuellement, la première des affaires, ou plutôt la seule. Hein, formule mérite d'être retenue, je crois. La première des affaires, ou plutôt la seule. Puis on dit, ensuite, mes livres. Oui, c'est intéressant pour un écrivain. Flaubert n'aurait jamais dit ça. Hein. Flaubert aurait dit, ce qui est le plus important dans ma vie, c'est mes livres, mes phrases. Dans lesquels j'ai essayé de mettre tout. Je me suis privé de vivre, je me suis privé d'aimer pour être un artiste qui fait capable de laisser à la postérité des chefs-d'œuvre qui laisseront une trace, qui maintiendront son nom. Alors, Sandra dit, bon, j'ai eu du plaisir à écrire, mais c'est venu après. Et s'il avait fallu que je renonce à écrire pour pouvoir mieux aimer, je l'aurais fait, ça aurait été un sacrifice que j'aurais fait sans un instant de regret, alors que Flaubert serait mort immédiatement si on l'avait empêché d'écrire. Donc, il n'y a aucune idolâtrie de la littérature chez Stendhal. La réussite ou l'échec d'une vie, selon Stendhal, ne se mesure absolument pas à, selon le critère de phrases parfaites qu'on laisserait à la postérité ou d'œuvres immortelles, mais selon un seul critère, est-ce que cette vie a été ou non remplie d'amour ? Bon, alors, Stendhal dit, j'ai eu très peu de succès, j'ai été peu aimé, j'ai beaucoup aimé. Et d'ailleurs, j'ai été en état d'amour permanent. Bon, j'ai été peu payé de retour, mais ça, c'est pas grave. J'ai eu l'essentiel parce que j'ai aimé. Et ça m'a fait penser à une phrase d'Albert Camus qui est très stendhalienne. Hein, je vous la cite en guise de conclusion. À ne pas être aimé, il y a de la malchance. Mais à ne pas aimer, il y a du malheur. C'est ça la disgrâce absolue dont on ne peut pas se lever. Être incapable d'aimer. Bon, pas être aimé, malchance. Mais être incapable d'aimer, alors là, malheur. Voilà. Merci à vous. Bon, si vous n'êtes pas épuisé, si vous n'avez pas envie d'aller vous coucher ou d'aller travailler, je réponds bien volontiers à quelques questions, si vous voulez
alors,
me
la poser. La parole est à vous.
Ne soyez pas timide, ce n'est pas un examen.
Question, observation, ça reste entre nous. Demande de précision, enfin bref.
Vous avez dit que donc Stendhal a été obligé de raccourcir la fin parce que le roman était trop long. Mais son but, c'était réellement de faire la fin, en fait, pourquoi il n'a pas décidé de rétrécir, une autre partie du roman ?
Alors là, il faudrait que je sois Stendhal lui-même pour pouvoir vous répondre. Je ne sais pas pourquoi il l'a fait. Ce qui était fait, il n'a pas abrégé ailleurs. Hein. Donc la fin est une espèce plutôt de canevas. Hein. Donc c'est rien d'autre. Il a indiqué la direction où il avait prévu d'aller, mais il n'a pas rempli la case. Hein. Pourquoi a-t-il fait comme ça ? Je ne sais pas. Je crois qu'il y a pu y avoir le livre. Vous savez, à l'époque, au 19e siècle, on imprimait les livres au fur et à mesure que l'imprimeur recevait les pages. Donc le début et l'essentiel était déjà imprimé, hein, sous forme d'épreuve. Et alors au moment où il a donné les dernières pages, c'est là que l'éditeur a rué dans les brancards, il dit non, c'est trop long, coupé. Abrégé. Et alors, mais il a dit, je me castrerai, d'accord, je me châtre, mais pas trop quand même. Alors, je me châtre sur la fin, mais je vais me châtrer aussi au début. Donc, il a laissé les choses comme elles étaient.
Alors, vous avez parlé de la cristallisation de l'amour. Et ne pensez-vous pas que la Chartreuse de Parme est, en tout cas, l'exemple type des différentes étapes dont il a parlé dans la cristallisation ? Parce que justement, avec les tomes, on peut facilement voir l'évolution de la cristallisation dans la Chartreuse de Parme.
Mais vous avez tout à fait raison, monsieur. Dans son livre de l'amour, d'ailleurs, que je pense que ce serait une bonne lecture pour vous, hein, pour votre programme, puisque vous avez l'amour au programme. C'est un livre qui se lit en un après-midi. Hein, c'est pas énorme du tout. C'est une analyse vraiment, on dirait, clinique. Hein, des différentes phases de développement d'une maladie, exactement, qu'on attrape un virus et puis on voit, ça passe par différents moments, hein, jusqu'à la guérison ou jusqu'à la mort. Bon, eh bien, on pourrait suivre, ça a d'ailleurs été fait par certains critiques, dans tous les romans de Stendhal, c'est le même schéma, hein, début, émerveillement, bon, et puis peu à peu, hein, intensification des symptômes, hein, etc., enfin, vous voyez. Bon, et puis aussi, hélas, hein, dégradation et finalement guérison. Le paradoxe, évidemment, que c'est une maladie dont on ne souhaite pas être guéri. Parce que quand on en est guéri, ça veut dire que l'amour est parti et on se retrouve dans l'échec. Hein. Donc, c'est une maladie qu'on voudrait permanente, hein, qu'il faut entretenir au lieu de s'en débarrasser par la guérison. Mais vous avez raison, c'est une étude minutieuse qu'on pourrait faire. Les différentes phases, on les les retrouverait, hein, absolument. Stendhal, il ne faut pas l'oublier, c'est pourquoi c'est un auteur qui peut intéresser des scientifiques comme vous, est un polytechnicien raté et un matheux intégral. Il s'est pas pris, polytechnicien raté, je suis méchant, il s'est pas présenté au concours, mais il était le cacique de son lycée à Grenoble en maths, et il est simplement pas allé à passer le concours, mais tous ses camarades qui étaient moins bien classés que lui en maths ont tous décroché l'école, hein, qui était toute neuve à l'époque. Donc Stendhal serait devenu polytechnicien, il n'y a aucun doute s'il l'avait voulu. En tout cas, il a écrit sur les mathématiques en tant qu'exercice et discipline des phrases qui ne pourraient que vous faire plaisir, en disant que les mathématiques sont admirables parce que dans les mathématiques, il y a deux choses qui sont impossibles. C'est l'imprécision, le flou et le mensonge. On ne peut pas mentir. On ne peut pas être hypocrite dans les mathématiques. Et donc ça, c'est une école, une discipline de la pensée à laquelle il était extrêmement sensible, parce que lui, ce dont il avait absolument horreur, c'était justement tout ce qui est brouillardeux, tout ce qui est... Donc là, c'est ça, et puis c'est pas autrement, et c'est admirable. Voilà, c'est ce qui s'approche le plus de la vérité, même si c'est une vérité abstraite qui ne peut pas être... Voilà, mais donc, je ne sais plus du tout où j'en étais. Donc, c'est pourquoi il présente son traité sur de l'amour avec d'une manière scientifique. On dirait que c'est écrit vraiment par un professionnel de l'interprétation des symptômes physiques, somatiques.
Physiologie de l'amour.
Ah oui, oui, Stendhal se réclamait de la physiologie, hein, disant que la physiologie, c'est la clé de tout, parce que c'est vraiment le terrain qui explique toutes les floraisons intellectuelles, spirituelles, etc. Mais ça, ça vient du corps, ça s'enracine dans le corps, évidemment.
Quand vous aurez fini le travail d'étude entre la chartreuse de Parme et de l'amour, je suggère que vous veniez nous présenter une conférence là-dessus. D'accord ?
Excusez-moi. Balzac suggérait que la chartreuse de Parme était trop longue, qu'il aurait dû peut-être commencer plus tard, comme vous le disiez.
Oui.
Et peut-être la terminer plus tôt également. Certains suggèrent alors que c'est peut-être parce que l'histoire ne suit pas uniquement le destin des personnages, mais l'histoire de l'amour en elle-même. Et que c'est les événements de l'amour qui sont le fil conducteur, et que arrêter l'histoire avant ou après aurait été incomplet pour l'histoire de l'amour. Qu'en pensez-vous ?
Oui, ben c'est-à-dire que quand même, on en revient à l'objection de Balzac, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez voulu faire ? Bon, c'est l'histoire quand même, on suit d'un bout à l'autre le parcours d'un personnage principal, qui est le héros, évidemment, donc on le suit dans ses aventures. Bon, alors, ce serait ça l'ossature, le fil conducteur de ce roman foisonnant et complexe, hein, parce que c'est une matière très très riche. On est toujours d'ailleurs stupéfié que Stendhal n'ait mis que 53 jours pour, non pas écrire, parce qu'il ne l'a pas écrit, mais dicter. Il dictait, il se promenait, il allait comme un ours en cage dans un bureau, et il y avait un secrétaire qu'il payait pour écrire sous sa dictée, mais en improvisant. C'est le livre le moins raturé qu'on puisse imaginer. Donc, pour vous imaginer l'exploit même intellectuel et quasi-physique d'écrire un livre aussi riche, aussi dense de personnages, d'événements, etc., en un temps, en 53 jours. Hein. Bon, c'est vraiment extraordinaire. Alors, c'est vrai que autour de ce fil conducteur viennent se greffer et s'agréger des choses qui peuvent paraître quelquefois un peu des digressions, voire des hors-d'œuvre. Il y en a un qui est typique, c'est l'épisode de la Fausta. Vous vous rappelez peut-être qu'il y a un moment, avant Clélia évidemment, où Fabrice s'entiche d'une cantatrice. Une cantatrice à la mode qui s'appelle La Fausta. Alors, c'est un morceau qui fait au moins, oui, s'il fait bien 30-40 pages, qu'on pourrait carrément détacher, hein, pour en faire une nouvelle, par exemple, dont on ne se voit pas tellement si c'était vraiment indispensable et nécessaire, comment ça se rattache. Évidemment, c'est une illustration de la frivolité de Fabrice qui passe son temps à des bêtises, qui se gaspille en histoire inessentielle. Bon, alors, mais on le savait déjà, c'était peut-être pas nécessaire. Bon, de même, tout le côté historique, si vous voulez, le fait que la chartreuse de Parme est aussi, d'une certaine façon, un roman qui se veut un document pour l'histoire, pour les lecteurs du futur, dire voilà comment ça se passait dans l'Europe méternichienne, l'Europe de la Sainte Alliance, hein, et dans l'Italie éclatée en micro-État, voilà comment ça se passait. Et donc l'Italie comme contre-exemple évidemment de la France révolutionnée et révolutionnaire, l'Italie enlisée dans des archaïsmes pitoyables. Alors est-ce que cela fait partie du sujet? Bah, je crois que oui. On peut trouver que certains épisodes sont peut-être prennent trop de place et sont trop développés, mais en même temps, il s'agit de poser la question quelle est la place et la nécessité de l'amour dans un contexte où tout lui est contraire, n'est-ce pas? On voit qu'évidemment, tout est fait pour empêcher l'éclosion, l'apparition du sentiment amoureux, bon, qui suppose évidemment un environnement favorable, propice, qui n'existe pas là. Donc, je crois, il me semble quand même qu'il y a une unité, si c'est la question que vous m'avez posée, qu'il y a une unité indiscutable et que, vous savez, il faut quand même toujours jamais oublier que Stendhal est âgé. Lui qui a tant aimé l'Italie, c'est la première fois qu'il consacre un livre à l'Italie. C'est un hommage à l'Italie, tardif. Finalement, il va enfin dire tout ce qu'il a sur le cœur par amour pour l'Italie, hein, bon, et les Italiens. Donc, il me semble que ça doit être pris aussi en considération, d'où peut-être l'envie de ne jamais en finir, d'être bavard. Et Stendhal répond à Balzac, on a les trois brouillons de la réponse de Stendhal à Balzac. Et il lui dit, oui, je comprends bien, c'est peut-être un peu long ce début, mais je parle de choses que j'aime tant. Qu'est-ce que je voulais répondre à ça? On écrit d'abord pour se faire plaisir. Bon, si ça, on fait plaisir à des lecteurs, tant mieux. Mais enfin, avant tout, je crois qu'un artiste cherche à se plaire à lui-même. Ça répond à une nécessité intérieure, ça vient de très très loin. C'est d'ailleurs ce qui explique pourquoi il a écrit si vite. C'est pas un miracle. C'est parce que ça, c'est le livre de toute sa vie. Ce livre, il était en incubation, en maturation, en préparation silencieuse et secrète depuis des dizaines et des dizaines d'années, depuis ses 17 ans, la Chartreuse de Parme. Il attendait le moment. S'il a tant reculé, c'est peut-être parce qu'il avait peur de prendre enfin à bras-le-corps le sujet qui lui était le plus précieux. Alors, on comprend bien que dans ces conditions, on n'est pas économe. Hein. On y va à fond et puis on se laisse peut-être un peu aller, entraîné par le plaisir qu'on trouve tout simplement à écrire, à composer.
Alors, dans l'ordre du doigt levé derrière.
Mais justement, par rapport à ce que vous disiez, il aurait fallu vivre un chagrin d'amour pour pouvoir en parler ensuite. Et on sait que Stendhal, il a eu... Il y a un chagrin d'amour qui a été provoqué par Mathilde de Bosky, je crois.
Ah bah écoutez, il a eu plus de chagrin d'amour que de bonheur d'amour. Ça, c'est évident. Il a en particulier son plus grand amour a été pour une femme de Milan, justement, évidemment. Et quand ça se passe à Milan, la Chartreuse, tout ce qui se passe à Milan dans la Chartreuse réveille à chaque pas, évidemment, des souvenirs douloureux, cruels et en même temps des extases. Hein. Vous savez, il y a dans... L'amour, c'est comme on le chante dans l'opéra de Verdi, La Traviata, hein, croce et delizia, hein, supplice et délice. Hein. Bon, c'est les deux en même temps, pas d'abord l'un, ensuite l'autre, mais c'est les deux en même temps. Un supplice qu'on ne voudrait surtout pas ne pas subir, mais un délice des délices qui sont torturantes. Bon, eh bien, une Milanaise qui s'appelait Mathilde Dembowski, à qui il a fait une cour enfiévrée, qui était vraiment la femme de sa vie et qu'il a chassée avec un mépris complet.
Mais du coup, vous avez associé au comte Mosca Stendhal, ou au contraire, vous avez associé à Stendhal le comte Mosca, mais est-ce qu'on peut associer justement un personnage à Mathilde Dembowski dans La Chartreuse de Parme?
Oui, eh bien, écoutez, je crois qu'à travers Mosca, il imagine évidemment Mosca réussissant là où il a échoué. Vous savez, la littérature, c'est une grande machine à compensation. Hein. Tous les échecs que vous avez essuyés dans votre vie réelle et personnelle, vous essayez de les racheter et de les sublimer dans une fiction qui vous obéit, qui obéit à votre désir, justement au désir qui n'a pas été satisfait et comblé dans la réalité de votre biographie, n'est-ce pas ? Alors, on peut imaginer, évidemment, que dans le personnage de Mosca, comme dans le personnage de Fabrice, il y a toutes les frustrations de M. Henri Bell, hein, qui essaie de s'en consoler par procuration, pourrait-on dire, par substitution, à travers des personnages de papier qui obéissent à son désir et qui le vivent à sa place.
Mais du coup, et Mathilde Bowski
Comment ?
Est-ce que justement Mathilde Bowski ou un ancien Chagrin d'amour a-t-il un personnage dans La Chartreuse de Parme ?
C'est plus non, ça, aucun personnage ne l'incarne. On ne peut pas dire que tel personnage s'aimait-il. Il n'y en a pas. Il y a simplement des personnages qui aiment et qui sont aimés. Or, lui a aimé sans être aimé. Alors, il essaie d'inventer un monde où un Fabrice et une Clélia trouvent le parfait accord et font musique et amour ensemble sans la moindre fausse note. Après, à travers toutes sortes d'épreuves initiatiques, hein, parce que l'amour est évidemment une initiation, puisque c'est une initiation à un mode supérieur de l'être, hein, on part du moins pour aller vers le plus, hein, mais ça suppose évidemment des épreuves, comme tout processus initiatique, et des épreuves qui peuvent même menacer quelquefois d'anéantir l'amour. Mais honneur aux valeureux qui ne se laissent jamais décourager et qui hissent la bannière amoureuse, il y a un côté chevalier, médiéval au service de sa dame, hein, qui ne se laisse absolument pas déconcerter ni détruire par les échecs qu'il peut rencontrer et qui continue plus que jamais au-delà des épreuves à poser la valeur et la nécessité de la cause à laquelle il s'est consacré. Alors, une dernière question.
Est-ce qu'on pourrait dire que Stendhal essaye dans cette œuvre d'établir un registre des différentes formes que prend l'amour ?
Alors, ça n'est pas par volonté didactique, il n'écrit pas un traité théorique sur l'amour, contrairement à De l'amour qui est un traité théorique sur l'amour. Traité théorique avec des cas, des exemples, des études de cas. Hein, concrète. Et chaque étude. Alors, ce sont des études de cas, justement, vous voyez. Alors, on peut, de ces cas dont chacun est autre, considérer que ce sont des illustrations de principes généraux. On dit, voilà, dans tel cas, ça se passe comme ci, dans tel autre cas, ça se passe comme ça. L'amour, c'est un clavier infini, c'est un nuancier infini. Il n'y a pas deux amours semblables. Il n'y a pas deux personnes qui vivent l'amour de la même façon depuis que l'humanité existe et pratique l'amour et le connaît. Donc ça, c'est un matériau absolument inépuisable pour le romancier qui propose des études de cas dont, dans un autre livre, à une autre portée, pédagogique et théorique, pour lesquels il pourra proposer des lois générales. Mais vous voyez, c'est vraiment principe et application, mais des applications infinies, hein, d'une infinie variété.
Ben écoutez, je vous remercie beaucoup. Je vous remercie beaucoup d'être venu.